Bonjour à toutes et à tous, René à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour la présentation de Lille Info, un magazine hebdomadaire consacré à l'Université Lille tous les mercredis entre 16h et 16h30. Aujourd'hui, nous allons parler d'un laboratoire, labellisé CNRS d'ailleurs, et son nom, c'est un très joli nom, donc, puisqu'il s'appelle CRISTAL. CRISTAL, donc, c'est, on va dire, un laboratoire né de la fusion de deux entités précédentes. On va présenter donc ce laboratoire avec les personnes qui sont ici autour de cette table. Donc, tout d'abord, Sophie Tison, qui est professeure d'informatique à Lille 1. Bonjour, Madame Tison.
Bonjour.
Donc, vous êtes aussi intégrée dans l'équipe précédente. Vous aviez contribué à un autre laboratoire, une des deux entités qui a donc fusionné là avec CRISTAL. Peut-être rapidement présenter le nom de l'ancien laboratoire et puis...
Oui, donc j'étais directrice du LIFL, qui voulait dire Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille, qui était donc aussi un laboratoire Lille 1, Lille 3 CNRS, avec INRIA aussi comme partenaire, et qui regroupait un peu plus de 300 personnes.
Voilà. Philippe Van Neg, donc, qui est professeur à l'École centrale de Lille. Philippe Van Neg, qui est aussi issu d'un autre laboratoire.
Oui, donc auparavant, j'étais directeur du laboratoire d'automatique génie informatique et signal, donc qui était également un laboratoire associé au CNRS. C'était un laboratoire partagé entre l'Université Lille 1 et l'École centrale de Lille. Et donc, comme nous avions beaucoup d'échanges avec le LIFL, est né il y a 8 ans, une idée de rapprochement des deux laboratoires.
Voilà, et nous avons également autour de cette table Olivier Collot, qui est professeur à Lille 1 et directeur de CRISTAL.
Bonjour, oui, effectivement, j'ai cet honneur et avantage.
Donc, ce laboratoire a été inauguré récemment. Quand on a deux labos qui fusionnent, c'est pour... Dans quel but, on va dire, et aussi ça a quel effet, quelles incidences?
Comme l'a dit Philippe, la réflexion a déjà démarré il y a quelques années, en s'appuyant sur le constat que les deux laboratoires avaient certes des compétences fortes dans certains domaines qui leur étaient propres, mais également des complémentarités qui, d'ailleurs, apparaissait au travers de collaborations entre certaines équipes. Et donc l'idée de construire une unité commune en s'appuyant sur ces complémentarités et de pouvoir comme ça donner la possibilité à des synergies de s'exprimer de manière plus forte et d'obtenir, espérer obtenir des plus-values sur le plan scientifique, eh bien, a conduit à réfléchir, à structurer une unité commune qui s'appuyait sur les deux unités d'origine.
Donc cette force de frappe, on va dire, elle se concrétise dans quel type de projets actuels et futurs?
Alors, sur des projets actuels, eh bien, on va peut-être pas être totalement exhaustif, mais certains des auditeurs ont peut-être entendu parler du contrat de plan État-Région. Nous sommes impliqués dans 3 projets du contrat de plan État-Région. Nous sommes également sur des projets de plus grande envergure, des projets européens. Voilà 2 exemples qui montrent notre capacité aussi à pouvoir nous inscrire dans des projets soit régionaux, soit plus larges, internationaux. Évidemment, des projets nationaux. Tous les laboratoires ont ou développent des projets dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche, par exemple.
C'est vrai que cette fusion a été l'occasion aussi pour CRISTAL, donc l'entité résultante, on va dire, d'avoir un espace d'action beaucoup plus large que chacune des composantes, puisque vous avez de nombreux champs, on va dire, disciplinaires ou de champs d'action, notamment en informatique bien sûr, mais aussi en robotique, en automatique, dans les signaux, etc. On peut peut-être voir un petit peu dans chaque domaine, adapté au public qui nous écoute, ce qui peut parler, ce qui peut rendre un peu concrètes les actions que vous menez.
Alors, quelques exemples concrets, c'est peut-être le plus simple. Par exemple, la robotique, parce que la robotique est un domaine d'actualité. Eh bien, nous avons des chercheurs qui s'intéressent à des robots dont les applications sont vers le milieu médical, par exemple. Donc pour aider les praticiens à effectuer des actes qui demandent une grande précision et dont les robots peuvent être une solution pour permettre un ciblage extrêmement, extrêmement parfait et qui conduit à une solution plus efficace pour le traitement des patients.
Mmh. On avait parlé un moment de traitement à distance avec des robots. C'est quelque chose d'imaginable dans le futur proche ?
Qu'est-ce que vous appelez à distance ?
Par exemple, des chirurgiens qui opéraient.
Ça existe déjà.
Oui. Sophie Tison ?
Oui, je pense que ça existe déjà. Mais pour embrayer aussi sur ce que vient de dire Olivier, on a des équipes qui sont aussi impliquées dans la simulation pour apprendre aux chirurgiens comment opérer. Parce que bien sûr, l'apprentissage pour la chirurgie, c'est bien sûr vital. Il vaut mieux que ça se passe pas forcément en temps réel sur un patient malade. Et donc, on a des équipes qui sont très impliquées sur les simulateurs chirurgicaux. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un gros projet qui est sur l'opération de la cornée, qui est quelque chose qui touche beaucoup de populations, en particulier dans les pays pauvres, où ça coûte très cher. Et donc, c'est très important. On peut opérer avec une cornée qui est beaucoup moins chère, mais donc du coup le geste est plus difficile et donc la formation est très importante. Et donc une équipe avait répondu présent à ce challenge, j'ai essayé d'avoir un simulateur qui puisse permettre au maximum de praticiens de s'entraîner très rapidement.
Il y a combien d'équipes de recherche en France qui sont capables de produire ou d'agir dans ces sphères-là ?
Vous ça, en c'est une question
des collègues
difficile.
Ou des concurrents ?
Il y a des collègues, certainement. Non, il y a certainement plusieurs équipes, mais ce qui, par exemple, sur ce projet-là, hein, qui est aussi un projet partagé avec INRIA, il y a une plateforme qui est commune, pilotée par INRIA, qui s'appelle SOFA, et donc qui a un petit peu comme objectif de rassembler un petit peu toutes ces recherches qui se font sur les plateformes à vocation simulation chirurgicale. Donc là, il y a vraiment plus un esprit de travailler ensemble que d'avoir une concurrence. Il y a une saine émulation.
Voilà. Donc on parlait de l'aide à la décision, mais dans le domaine de la santé, votre domaine est large et vos compétences aussi, notamment sur des recherches sur le génome, c'est ça ?
Oui, il y a aussi une équipe qui travaille sur le génome. Et en particulier, donc, qui a des projets ici avec Oscar Lambré ou avec le CHU, aussi autour du cancer. On parle beaucoup de médecine personnalisée, comment essayer de trouver le meilleur médicament en fonction de la personne, du génome, etc. Donc on a une équipe qui est impliquée dans ces projets-là.
Les grands systèmes aussi, c'est quelque chose qui vous passionne en informatique ?
Alors, les grands systèmes, on peut bien sûr les voir en termes de systèmes d'information qui là est plutôt une spécialité de la partie informatique de Christelle. Ensuite, il y a les grands systèmes au sens physique du terme, donc tout ce qui est robotique mobile, par exemple, c'est aussi un axe de recherche privilégié du laboratoire avec quelques applications assez spectaculaires. Hein, puisqu'il y a eu un projet qui était de faire un robot grandeur nature pour transporter des containers sur un port. Peut-être l'avez-vous vu se promener sur le campus. Donc ça, c'est un exemple de projet autour de la robotique et des grands systèmes, on va dire, qui a intéressé auparavant le Lagis et qui intéresse maintenant Cristal.
C'est vrai que dans ce domaine de la robotique, on avance à grands pas, j'allais dire, et à pas artificiels parfois.
La robotique, c'est vraiment quelque chose qui est au goût du jour. Enfin, c'est quand on voit les robots humanoïdes que l'on est capable de faire maintenant. Mais tous ces appareils, il faut les contrôler, il faut les commander. Et ça, c'est le propre d'un laboratoire d'automatique. Il faut éventuellement les surveiller pour détecter éventuellement s'ils tombent en panne, un défaut de fonctionnement, éventuellement concevoir des algorithmes qui puissent aller réparer un autre robot. Donc tout ça, c'est un vaste champ d'application de nos recherches et des recherches qui seront développées au sein de Cristal.
Donc ces applications sont dans le domaine de la domotique, pourquoi pas de l'industrie, sinon même militaire, non ?
Ah.
Ça peut aller jusque-là ?
Il est difficile d'envisager la robotique sans application militaire. Moi-même, quand j'ai commencé mes activités de recherche, c'était sur des problèmes posés par les militaires. C'était pas de la robotique, mais en tout cas, c'était...
Au départ, la demande vient un peu de là.
Oui.
Et le financement aussi.
Ah oui.
Voilà, on a bien compris les enjeux. Et donc le fait aussi que des laboratoires soient performants, notamment en France, puisque c'est encore un grand pays d'une manière globale, industrielle, militaire et de recherche, la France.
Je dirais que dans certains domaines, effectivement, on a des activités de recherche qui sont assez à la pointe. Maintenant, peut-être que la plus grande de nos difficultés, c'est de réussir à valoriser tout ça.
Donc un contrat de plan État-région, ça implique forcément la région et l'État aussi, ça reconnaît votre laboratoire et ça peut lui donner une notoriété aussi pour capter des financements européens, voire plus.
Alors, le contrat de plan État-région, sur certains de ses projets, nous a permis d'obtenir des financements, notamment par exemple au niveau du transport en ce qui concerne l'ex-Lagis. Par contre, ce n'est pas les contrats du CPER qui vont nous permettre de décrocher des contrats européens. Ça, c'est quelque chose à côté et c'est quelque chose qu'il faut monter en y mettant beaucoup d'ardeur et de temps.
Voilà, ces projets européens, pour les monter, il y a un secret ou il y a des gens compétents que vous avez en interne de l'équipe ou vous pouvez faire appel à des gens extérieurs qui ont des capacités à gérer des projets de ce niveau ?
Il faut des compétences en interne, bien évidemment. Après, il faut trouver aussi des partenaires. Les projets européens, on ne les monte pas seul, on les monte avec des partenaires qui veulent jouer sur le même périmètre, sur un projet commun. Donc, il y a des aspects collaboratifs. Et donc, ça nécessite d'avoir un relationnel, de vous développer des relations avec d'autres partenaires. Alors, qu'ils soient académiques, mais aussi sur certains projets non académiques.
Pour monter les dossiers, il faut des techniciens du dossier ?
Le montage des dossiers, c'est toujours extrêmement difficile. Il y a, on va dire, des règles de l'art un petit peu à respecter. Il y a l'aspect scientifique qui est un point fondamental. Après, il y a comment décliner le projet scientifique dans un cadre, on va dire un formulaire, qui va aussi se décliner en aspect de demande budgétaire et qui doit être construit de sorte à, on va dire, pousser les décideurs à le choisir pour le financer et lui permettre de se développer.
Donc pour monter ces dossiers, il y a des ressources en interne ou bien vous faites appel à l'extérieur ?
Alors, des ressources en interne...
De l'université ?
De l'université. Alors, on a des points d'entrée au niveau de l'université. Maintenant, on peut s'appuyer aussi sur d'autres acteurs, si c'est nécessaire, d'autres cellules d'aide au montage. Mm-hmm. L'idée, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, quand c'est nécessaire, de trouver les compétences là où elles se trouvent pour aider à construire et pouvoir déposer un dossier. Mais bon, on a aussi l'habitude, on commence à avoir l'habitude aussi à savoir construire aussi ces montages.
Donc, est-ce que c'est compliqué de monter le dossier et d'avoir les financements dans le bon temps pour réaliser les projets ?
Ah, alors, il y a le temps de montage de projet qui nécessite quand même eh bien, d'avoir pris des contacts avec des partenaires potentiels, de se mettre d'accord sur un contenu. Et puis après, il y a les dates à respecter en termes de dépôt. Et après, il y a les temps d'instruction. Et après, voilà, il y a des délais qui sont un peu incompressibles. Et le temps file. Donc voilà, bon, il y a toujours on aimerait pouvoir commencer le plus vite possible. En revanche, on doit aussi se plier aux décisions qui se font à certaines, voilà. Certaines dates.
Donc on monte le dossier est validé ou non un an ou deux après, c'est ça à peu près ?
Oh non, ça c'est
ça va plus
c'est
vite,
plus,
c'est ça plus, peut aller plus rapide. Et après on le met en œuvre et on fait le bilan.
Ah, de toute façon, un bilan, il faut le faire.
C'est sûr. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez donner un exemple de projet dans lequel vous êtes engagé de façon très forte avec l'Europe, par exemple ?
Je vais rebondir sur ce que racontait Philippe tout à l'heure, un projet européen qui s'est terminé il n'y a pas très très longtemps, autour de la robotique, de développer des instruments, on va dire, autonomes, utiles pour déplacer des objets très lourds et très encombrants sur les zones portuaires. Voilà un type, le type de projet européen sur lequel on a finalement une réussite et puis un retour d'expérience, parce que ça c'est aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience et qui peut générer aussi l'envie d'aller plus loin, de développer les continuités éventuelles du projet. Il y en a d'autres, il y en a qui viennent d'être déposés, donc je ne parlerai pas parce qu'ils n'ont pas encore été instruits, mais il y en a qui ont été déposés récemment.
Alors vous avez aussi une dimension d'accompagnement technique, d'artiste. C'est peut-être pas votre activité principale, mais néanmoins vous êtes ouvert à des démarches et aussi à des synergies, comme vous disiez tout à l'heure, avec des gens qui ont des projets artistiques et auxquels vous apportez des solutions.
Oui, enfin bon, plus généralement, je pense qu'une des spécificités aussi du laboratoire, c'est qu'on est vraiment ouvert avec aux collaborations avec les sciences humaines, avec les historiens, avec les psychologues, et puis aussi avec les artistes. Donc il y a en particulier, je sais pas si vous connaissez la Pleine Image à Tourcoing, mais il y a un lieu qui s'appelle l'Imaginarium, et dans ce lieu, il y a un plateau recherche qui se base sur un Equipex, et on est IRDAEV, et on est partie prenante depuis le départ de ce projet. Et donc, dans le cadre de ce projet, ou autour de ce projet qui s'appelle Sciences et Culture du Visuel, donc, on a à la fois des collaborations avec des artistes. Donc, par exemple, il y a eu quelque chose qui a été assez médiatisé, qui était Damasana, où il y avait, avec les bols tibétains, je ne sais pas si vous avez,
oui,
si vous avez
sûr,
vu, mais donc, voilà.
Lilin,
voilà, donc, on avait travaillé avec eux sur l'interaction. Et il y en a régulièrement, tous les ans, on a deux ou trois projets sur lesquels on accompagne des artistes. Donc, effectivement, ça peut être vu un petit peu comme du service aux artistes, mais ça enrichit en général beaucoup le chercheur qui dialogue avec l'artiste, ça lui donne une autre vision, et en général tous les enseignants-chercheurs qui se prêtent au jeu sont enthousiasmés par cette expérience et souvent la renouvellent. Donc on a vraiment un partenariat de longue date sur cette thématique, aussi avec le Frénois. On accompagne beaucoup donc de projets du Frénois régulièrement. Donc ça c'est vraiment une dimension, et aussi donc avec les historiens sur les reconstitutions, enfin sur des projets qui sont un petit peu plus amont, un peu plus recherche, sur la médiation scientifique aussi, on a vraiment une implication assez forte de nos chercheurs.
Comment se fait le dialogue et peut-être déjà la demande de gens extérieurs qui disent voilà, j'ai un super projet mais j'arrive pas à le gérer techniquement, on voudrait faire appel au Labo Cristal?
Ça c'est une vraie question, parce que effectivement il y a souvent quand même une grosse partie c'est le réseau humain. C'est des contacts, on est un petit peu partout, on a des relations privilégiées avec, par exemple avec le Frénois, ou avec d'autres. Donc il y a vraiment, au départ, souvent une rencontre entre deux personnes. C'est souvent le point de départ qui, en général, fait tache d'huile, et donc après, on est identifié par un certain nombre d'acteurs comme étant prêts à répondre à cette demande. Donc il y a vraiment, souvent au départ, la rencontre de personnes. Je pense que c'est toujours un peu la même chose, et c'est bien. Et puis après, bon, il y a une image qui se crée au fur et à mesure, et sur laquelle on cherche à contribuer, bien sûr. Après, il y a les pôles, par exemple, comme Pictanovo, sur lesquels on est impliqué. Et voilà, donc il y a pas mal de relais quand même, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des artistes, au niveau de tout le monde socio-économique. Via les pôles, c'est un peu leur rôle, et qui savent identifier les laboratoires qui peuvent répondre présents sur des demandes diverses.
Voilà, donc Cristal, le centre de recherche informatique, signal et automatique de Lille, Donc c'est une unité unique en, en région Nord-Pas-de-Calais.
Oui.
Et à partir de là, ça vous donne des responsabilités d'irriguer le territoire ou pas ?
Ah bah d'abord, d'une, c'est une très grosse unité, hein, puisque aujourd'hui on est presque 430, hein, permanents et non permanents, donc on est visible. Ça nous fait poser aussi sur nos épaules, effectivement, une charge. Hein, il faut assumer cette charge et on doit être quelque part un peu leader aussi sur nos points forts et continuer de développer de l'excellente recherche et de travailler, comme l'a dit Sophie, ça on a cette, cette possibilité aussi d'être en, en interaction avec d'autres disciplines, et l'interdisciplinarité est une dimension importante aussi au sein de Cristal, parce que nos points forts en termes de discipline nous permettent aussi d'aller apporter des solutions, en tout cas de monter des projets collaboratifs, coopératifs, avec d'autres disciplines pour essayer de répondre ou faire sauter des verrous scientifiques qui s'opposent à d'autres communautés.
Alors l'inauguration de Cristal a eu lieu le 2 avril, donc il y a peu de temps. S'il faut faire un bilan de cette inauguration et des perspectives, des, peut-être des contacts qui vous ont paru intéressants à développer.
Ah ben, l'opération d'inauguration est une, on va dire une cérémonie un peu officielle. Bon, évidemment, un certain nombre d'acteurs régionaux ou nationaux étaient présents. Bien évidemment, on échange avec un certain nombre de personnes, mais c'est pas maintenant qu'on va pouvoir nécessairement faire le bilan. Réinvitez-nous dans quelques mois ou dans un an et puis reposez-moi la question et puis je vous apporterai une réponse un petit peu plus éclairée.
Ben avec plaisir, rendez-vous est pris. Donc, dans l'actualité visible du grand public prochainement, vous avez des événements ou peut-être un site internet si les gens veulent vous connaître un peu davantage.
Alors un site internet, oui. Il suffit de taper cristal.unif-lille.fr. Et puis vous allez tomber sur le site web de l'unité où vous allez retrouver en particulier bah, les actualités, ça, ça peut être intéressant. Et puis la recherche, c'est une dynamique, donc on est toujours dans une action. Et il y a un certain nombre de, d'opérations qui vont avoir lieu dans peu de temps. On va, en tant qu'unité, participer aux IT Days la semaine prochaine, qui se passe au Vélodrome de Roubaix.
Vous pouvez présenter un petit peu l'idée ?
Alors très rapidement, bon, c'est lié à ce que citait tout à l'heure Sophie, la French Tech, hein, c'est en lien. C'est donc un certain nombre d'acteurs, que ce soit du monde socio-économique ou aussi bien du monde académique, qui tournent autour, on va dire, des sciences de l'information et de leur utilisation, leurs usages ou leur capacité à pouvoir répondre à des problématiques du quotidien, de la vie, des besoins de la société. Quoi.
Voilà, bien, donc le laboratoire Cristal aujourd'hui était représenté par Olivier Collot, par Philippe Vaneg et par Sophie Tison. Je vous souhaite une bonne continuation et pourquoi pas se retrouver dans un an.
J'attends votre invitation.
Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Thank you.